cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 1er juillet 1992 à Saint-Jean-d'Art.
L'association de deux êtres humains. Il manque la... l'association de l'homme et du chien. L'association de l'homme avec l'homme, et de la femme avec la femme, de l'homme et la femme, peu importe, et le mariage disparaît. Donc on supprime le sacré. Donc on arrive à une laïcisation radicale qui supprime le point de vue du sacré. Et à ce moment-là, on a le droit de dire « je ne marche pas ». Et tout ça est inique. Parce que le point de vue religieux est inscrit dans notre nature humaine, alors il faut le faire intelligemment. Et la prudence consiste à faire le point de vue le plus intelligent, de la manière la plus intelligente qui soit. Et on ne peut pas accepter. Vous voyez, quand il s'agit de lois qui vont contre le patrimoine familial, de la patrie, de tout ce que représente un pays, on ne peut pas marcher en conscience. On est obligé à ce moment-là de voir comment on peut s'opposer à l'homme. En tant que religieux, c'est pas la même chose qu'un père de famille. Un père de famille est immédiatement engagé. Le religieux, il a autre chose à faire. Mais dans certains cas, on est en face de quelque chose qu'on est quelquefois obligé. Non seulement de donner conseil, mais quelquefois de s'engager. On va se trouver devant des cas de conscience extrêmement aigus. Dans le sens profond. Mais vous voyez, c'est là où je dis patrie égale patrimoine, état. C'est le point de vue de la constitution, c'est le point de vue de l'autorité. L'état s'enracine dans une patrie. Peut-on faire on fait la distinction entre les deux, mais on ne peut pas séparer tout état. Le jour où l'état n'est plus lié à la patrie, alors on tombe dans quelque chose de purement artificielle qui ne peut pas durer. Et c'est le point de vue, voyez, aristotélicien et hegelien, ça qui est intéressant à remarquer. Le réalisme aristotélicien parle de la patrie. Et le point de vue purement formel, dialectique, parle d'un état séparé de la patrie. Alors on a des lois sans finalité, puisqu'il n'y a plus de nature. Sans finalité. C'est le point de vue économique qui commande tout. Je n'insiste pas plus. Puisque c'est le dernier cours de l'année de l'éthique religieuse. Voyez. Ce cours sur l'éthique religieuse que nous avons fait cette année-ci vous a, j'espère, ouvert des pistes de recherche. C'est ça que je cherche avant tout à faire. Parce que c'est des sujets extrêmement importants pour nous, sur lesquels on réfléchit peu. Alors, par le fait même qu'on réfléchit peu, morale, la plupart du temps, n'a plus de fondement. C'est ça qui me semble le plus net. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir même sur une éthique chrétienne, avoir un regard philosophique sur l'éthique chrétienne. C'est important et c'est capital, je crois, pour nous aujourd'hui. Sur l'éthique religieuse, alors on comprend très bien, ça fait partie de notre philosophie. L'homme est un animal religieux. Nous avons essayé de comprendre quelle était l'expérience qui commandait toute cette éthique morale, cette éthique religieuse. L'adoration. Et l'adoration permet d'acquérir la vertu de religion. La vertu de religion structure toute l'éthique religieuse. Nous avons essayé de comprendre religieuse met un accent sur le point de vue de l'obéissance. L'éthique religieuse développe énormément le point de vue de l'obéissance. Ce que l'éthique fondamentalement humaine ne fait pas, ou fait très peu. L'éthique fondamentalement humaine montre que l'obéissance apparaît avec la famille, donc au plan fondement politique, la communauté. Je peux, au point de vue éthique, fondamentalement humaine, montrer que les parents ont un devoir d'éduquer. Ils ne sont parents que s'ils mettent au monde un être humain nouveau et qu'ils l'éduquent en ayant la responsabilité. Et là apparaît l'obéissance. L'obéissance est très liée à la famille, puisque l'autorité est liée au père. L'autorité paternelle, en premier lieu. Puis alors, nous avons essayé de comprendre comment cette éthique religieuse avait une influence sur le point de vue de la vertu de tempérance, ce que nous avions vu la dernière fois. Rapidement, intéressant ces deux problèmes extrêmes de l'éthique religieuse, le martyr. Alors, au point de vue politique, le point de vue de la défense de la patrie, avec tout ce que ça représente. Et le patrimoine paternel, le patrimoine patriotique, toute l'histoire d'un pays. Et puis le point de vue de l'esprit de virginité, consécration à Dieu. C'est important de saisir les pointes, vous voyez, qui éclairent tout le reste. C'est évident qu'on pourrait regarder l'influence de l'éthique religieuse au point de vue politique, puisque l'éthique religieuse est naturelle. L'homme est naturellement un être religieux. Un état, une cité, une politique qui refuse de regarder le point de vue religieux est une politique qui est radicalement faussée, puisqu'elle supprime un problème essentiel. Donc elle est radicalement faussée. Et on retrouvera les erreurs dans le point de vue des lois. Petit à petit, la loi disparaîtra. Il n'y aura plus de loi. La loi deviendra uniquement une espèce de... admettre un état de fait. Reconnaître un état de fait. Pas plus. Reconnaître un état de fait, ce n'est pas moral. C'est un aspect juridique qui n'est plus moral, qui n'a plus un fondement moral. Alors quand l'aspect juridique n'a plus aucun lien avec le point de vue moral, ça devient purement conventionnel. Alors on comprend qu'à ce moment-là, les magistrats ne savent plus quoi faire. Les juges ne savent plus quoi faire. Je connais de jeunes juges actuels qui m'ont dit le métier de juge devient impossible en France. C'est la première fois que j'entends ça. Ça devient impossible. Et je comprends très bien. Si on a une conscience et qu'on est en face de lois inconscientes, plus de conscience morale, plus de conscience religieuse, on tombe donc dans la virtuosité. Dans l'efficacité. Donc ça devient impossible, point de vue conscience. Il y a comme ça des situations extrêmes qu'il faut comprendre. On est tout juste, on l'est déjà dedans. Devant une situation limite. point de vue politique, parce que l'aspect moral disparaît complètement. Quand l'aspect moral disparaît complètement, on est devant une situation limite. Il ne peut y avoir que des requins qui gouvernent. Donc le point de vue machiavélique, il n'y a plus de finalité. Alors je crois que ça, il faut le saisir philosophiquement, indépendamment de toute espèce de propagande de droite ou de gauche. Le saisir philosophiquement par rapport à l'homme. La politique se comprend par rapport à l'homme. Et l'homme est finalisé. C'est la personne humaine. Donc vous voyez, là, il y aurait la conséquence immédiate au point de vue politique. Ce qui est très important, de voir que une politique humaine implique un regard sur l'aspect religieux. L'État ne doit pas diriger le point de vue religieux, mais il doit le reconnaître. Il doit le reconnaître. Il doit respecter la liberté religieuse et même la défendre, la liberté religieuse, pour que de fait le citoyen puisse rester un citoyen qui humainement peut aller jusqu'au bout de toutes les exigences de son humanité. Alors là, il y a quelque chose qui est toujours extrêmement important, et saisir ce que c'est que la situation limite au point de vue politique. Alors je voudrais avec vous regarder maintenant ce point de vue dernier de l'éthique religieuse. Cet appel à la contemplation. La contemplation existe d'abord au niveau naturel. Et ceci est très important à sauvegarder. La contemplation n'est pas uniquement un bien chrétien. La contemplation n'est pas uniquement au niveau de la révélation et de la foi. Elle existe à ce niveau, c'est sûr. Il y a une sagesse théologique, il y a une sagesse chrétienne, mais il y a une sagesse humaine. Et si je dis qu'il y a une sagesse humaine, je veux dire qu'il y a contemplation humaine acquise. On devient contemplatif. On l'acquiert. Et je crois que lorsque Dieu nous permet d'acquérir, si on n'acquiert pas, Dieu ne favorisera pas notre paresse. Ça donne des grâces mystiques qui permettraient de se passer complètement d'une contemplation naturelle. C'est pour ça que durant toute l'année, nous avons essayé en théologie naturelle, et nous continuerons demain, après-demain, de voir qu'est-ce que c'est que la contemplation de Dieu. Alors, ici, je voudrais montrer comment l'adoration conduit à la contemplation. Et comment la contemplation finalise l'éthique religieuse et non pas l'adoration. Ça, je crois que c'est très important. En théologie naturelle, on a regardé surtout le contenu de cette contemplation. On contemple Dieu, créateur, on contemple sa sagesse, on contemple son amour. Et ceci est nécessaire pour ne pas tomber dans un fidéisme. Paul VI n'hésitait pas de dire que le fidéisme était le plus grand danger actuel de la théologie catholique. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, dans une petite audience à des théologiens. Et il avait parfaitement raison. Thank you. J'espère que le fidéi se diminue et que l'homme religieux contemplatif augmente et qu'on acquiert progressivement une certaine contemplation naturelle, humaine. Ne disons pas que c'est facultatif. Non, pas du tout. C'est pas facultatif. C'est nécessaire. sais que cette dépendance et la reconnaissance de cette dépendance à l'égard de Dieu comme créateur, à l'égard de Dieu Père, de mon âme, de ma vie, de mon intelligence et de mon cœur, réclame en présence du Créateur, réclame cette recherche de le connaître le plus que je peux, puisque plus je le connaîtrai, plus je l'aimerai. Et donc, de mettre toute mon intelligence au service de cet amour, et mon intelligence dans ce cas-là de plus pénétrant, de plus profond. L'intelligence n'est parfaitement intelligente, donc elle dépasse tout l'aspect rationnel et logique, que lorsque justement je la mets totalement au service de cette contemplation de Dieu, Créateur et Père. Puisque je sais que la raison ne peut rien dire de Dieu, que la logique ne peut rien dire de Dieu. Donc j'évacue tout l'aspect rationnel et logique pour entrer dans l'aspect purement de la réalité. Et c'est le propre de toute cette recherche de théologie naturelle. Au-delà de la logique, au-delà de la raison. Je sais que le Dieu que j'adore, je ne peux pas l'analyser. Et je ne peux pas l'analyser parce que justement, en lui, il n'y a pas de limite. Il n'est pas fini, il est infini. Puisqu'il est infini, je ne peux que le contempler. Alors qu'est-ce que c'est que cette activité nouvelle de la contemplation? Voyez, apparaît vraiment en éthique religieuse une opération nouvelle de l'intelligence que j'appelle théorien contemplation. Et ceci est une expérience interne, comme l'adoration est une expérience interne, la contemplation est une expérience interne. Donc je vois bien ce qui m'oblige de chercher cette contemplation. C'est à cause de cette présence de Dieu qui m'est donnée dans l'adoration. Mais je vois bien que cette présence affective réclame d'être de plus en plus lucide pour que mon adoration du reste reste vraie et qu'elle ne tombe pas dans une affectivité de sentiments. Je sens Dieu, voyez, avec l'odeur de l'encens. Je sens la présence de Dieu. Mais alors, s'il n'y a plus ce sentiment-là, Dieu n'est plus là. Rien n'est changé du côté de Dieu, tout est changé de votre côté. Ça prouve que votre subjectivité l'a emporté sur l'objectivité quand vous dites ça. Et nous sommes tous un peu comme ça. Nous sommes dans la ferveur sensible. Et quand le point de vue du sentiment sensible disparaît, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas développé l'aspect de l'intelligence au service de l'amour. L'intelligence est au service de l'amour. Et elle permet à l'amour d'être vrai et de ne pas tomber dans l'aspect imaginatif et sensible et sentimental et romantique. L'intelligence sait qu'elle ne peut pas analyser l'être premier, le créateur, qu'il échappe à l'intelligence. c'est en ce sens-là que toute contemplation, même la contemplation acquise, implique une sortie de soi. On doit se dépasser dans ce qu'on a de plus nous-mêmes. Et c'est un des aspects les plus étonnants de l'homme, c'est que l'homme est capable de se dépasser. Il y a déjà ça dans l'amour d'amitié. On se dépasse pour l'autre qu'on a choisi comme ami. Et c'est ce dépassement qui est capital dans toute amitié véritable. On voit que très très souvent, quand on parle de l'amitié, les gens restent dans une dimension romantique. Encore récemment l'expérience. Ils ne comprennent pas du tout ce que c'est que l'amour d'amitié. Ils croient que c'est simplement la camaraderie l'aspect, vous voyez, romantique de l'amour d'amitié. Alors je comprends qu'à ce moment-là, ils ne comprennent pas du tout que l'amour d'amitié est quelque chose de capital dans notre vie. Donc, premier dépassement dans l'amour d'amitié où je saisis l'autre. Ce dépassement. et cet effort de l'intelligence, vous voyez, est plus ou moins limpide, plus ou moins fort, en raison de toute la philosophie première.
Nous avons ici
dans une appréhension. Il faut accepter le dépassement de tout concept pour uniquement adhérer à la présence dans l'affectivité et dans la purification de cette affectivité pour comprendre le réalisme de cette présence. Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même en tant qu'il est créateur et père. Et ceci, je peux, je ne dis pas l'expérimenter, c'est une contemplation, c'est pas une expérience, c'est une contemplation, c'est-à-dire c'est une adhésion parfaite et toute pure au-delà de tout sensible et au-delà même de toute affectivité intérieure.